C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle avec une nouvelle une pour ce trimestre, David.
Une nouvelle une sur le Summer of Love des populistes européens, puisqu'évidemment les élections européennes du 6 au 9 juin vont vraisemblablement aboutir à une énorme percée, une montée de la vague populiste dans tous les pays d'Europe. Et donc nous avons un peu décrypté la stratégie toute rose et toute pop
un
et
peu
toute
à la Barbie,
sucrée,
là,
exactement.
Avec des petits cœurs et tout.
Bardella en Barbie, j'ai envie de dire Barbella avec des petits cœurs, puisqu'évidemment derrière la façade propre et les selfies et les sourires se cache bien sûr une vraie dangerosité politique.
L'extrême droite ultra bright.
Absolument.
Et la une de Politis, Pierre ?
Alors, on revient sur la fin de vie avec cette militante, cette avocate et militante antivalidiste et féministe, Elisa Rojas, qui nous raconte pourquoi cette loi, enfin ce projet de loi, résonne comme une loi antivalidiste. Elle est passionnante, cette interview.
Eh bien, écoutez, voilà, à vos magazines. Alors, le déficit annoncé cette semaine de 5,5% du PIB a déchaîné les oppositions. La droite a demandé la démission du ministre de l'économie. Hier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal a lâché le mot rigueur. On l'écoute.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Un fil rouge, c'est celui du travail.
Voilà donc le mot rigueur, on va y revenir. Mais dans le fond, aujourd'hui, on peut dire qu'il existe pour l'instant deux solutions, enfin trois. La première, c'est celle de droite, hein, qui est de, on tape dans les dépenses, dans l'État-providence. Celle de la gauche, c'est augmenter les impôts et taxer les super-profits, ou en tout cas les entreprises qui font des super-profits. Je crois que la France Insoumise a parlé de 140 milliards d'euros. Mais l'exécutif ne veut pas revenir sur sa parole d'augmentation des impôts. Voilà. En revanche, le gouvernement va s'attaquer à l'assurance chômage. Un nouveau tour de vis, selon vous ?
Oui, alors en tout cas, très clairement, les dépenses sociales sont dans le collimateur. L'assurance chômage, mais aussi les dépenses sociales, les dépenses de santé, toute une série d'allocations spécifiques. Mais à l'évidence, ça ne suffira pas. Et il y a d'autres pistes qui sont envisagées. Par exemple, les collectivités locales,
qu'on
envisage
trinquer.
Aussi de faire trinquer. Et déjà que ça fait une vingtaine d'années que celles-ci sont vent debout contre à la fois la baisse de la fiscalité locale, des recettes et de la DGF, la fameuse dotation globale de fonctionnement. Donc, aussi bien le social que les collectivités, c'est le risque de nouveaux fronts politiques qui risque de s'ouvrir. Et je rappelle quand même que dans 3 mois, on a une petite échéance, enfin dans 4 mois maintenant, ça s'appelle les Jeux Olympiques. Et connaissant l'humeur batailleuse à la fois des Français, mais aussi des représentants syndicaux, on pourrait tout à fait avoir un vrai conflit social à la veille des JO. Et donc le gouvernement marche évidemment sur des œufs. Et puis la troisième solution, qui paraît...
J'ai oublié ma troisième solution.
La deuxième solution que vous évoquiez, c'est-à-dire les impôts, paraît quand même inévitable. Et d'ailleurs, il y a un vrai débat, on va en parler, au sein de la majorité. Mmh. Ça commence vraiment à se tendre, puisque certains préconisent, c'est notamment le cas de François Bayrou, du Modem, le cas de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui préconise d'augmenter les impôts, ce qui est un véritable tabou pour Macron. Je rappelle que depuis 2017, s'il y a un dogme intangible, un point sur lequel il n'a jamais varié, contrairement à tous les autres, c'est bien le fait de ne pas augmenter les impôts.
Il y a aussi la troisième solution, alors là, qui veut dire rigueur, pour le coup. Hein, c'était le programme de Pécresse, le programme Valérie Pécresse, pardon, et de François Fillon. Mmh. C'est dégraisser
le mammouth.
Le mammouth, comme dirait Claude Allègre, c'est-à-dire enlever des fonctionnaires. Et ça, les Français n'y sont pas prêts. Et il faut une sorte de courage politique ou de folie politique pour le faire à quelques mois des élections européennes.
Oui, oui, évidemment, on sait très bien qu'un gouvernement de droite comme celui d'Emmanuel Macron s'inspire de ce que la droite a toujours proposé, c'est-à-dire toujours moins de dépenses publiques, toujours moins de fonctionnaires. Moi, j'ai un problème avec le diagnostic. Je ne suis pas économiste, nous ne sommes pas économistes sur ce plateau, mais j'écoute et je lis les économistes. Et ils nous disent, on sait très bien qu'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire ont pour obsession la fameuse note par les agences de notation qui va tomber assez prochainement. Mmh. La note de la France, pour l'instant, elle est de 18 sur 1. Vous savez, c'est ces fameuses attributions et que la France, elle est à AAA, donc elle est sur 18 sur 20. C'est pas catastrophique. On nous dit que si on continue de s'endetter, on va avoir des problèmes sur l'emprunt, sur les marchés financiers et que ça va nous coûter encore plus cher parce que les taux d'intérêt vont augmenter, etc. Or, c'est totalement faux. Les taux d'intérêt n'augmentent pas. Ils sont aujourd'hui de 1,8% du PIB en France.
Non mais est-ce qu'en cas de dégradation, ils peuvent...
Non mais même si on est dégradé, même si on devait être dégradé, on va passer à 16 sur 20. On est quand même loin de l'Italie qui est à 11 sur 20 ou de la Grèce qui est à 9 sur 20. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est quand même pas dans une situation catastrophique où l'État serait en faillite. Donc ce que je veux dire, et en plus, on n'est même pas décrédibilisé vis-à-vis des marchés financiers, parce que je le disais, ça nous coûte 1,8% du PIB, 1,8 point du PIB en France, c'était 3,5 il y a encore quelques années. Donc ce que je veux dire, c'est que la petite musique qui consiste à nous faire croire qu'on est au bord de la faillite et qu'il faudrait tout remettre à plat et arrêter les dépenses de notre État, c'est nous préparer.
Donc vous êtes optimiste.
Alors, je suis optimiste, mais c'est que ce que je veux dire, c'est qu'on nous prépare à un tournant de la rigueur parce qu'on sait que c'est l'obsession, c'est de pas avoir cette espèce de note dégradée par la France, par les agences de notation, à laquelle évidemment ça porterait un coup d'arrêt, un coup à la politique qui est menée par celle de Bruno Le Maire.
Je trouve très optimiste parce que si vous regardez un peu, vous comparez la situation française à la situation européenne, il faut force est de constater qu'on est un des mauvais élèves de l'Europe, si ce n'est le plus mauvais élève. Je rappelle que les Pays-Bas ont réussi à réduire leur déficit quasiment à 0% et que le Portugal, qui a quand même une économie nettement moins florissante que la nôtre, a un excédent budgétaire de 1,2%.
Donc, parce qu'est-ce qui s'est passé ? Politiques de relance, le Portugal.
D'accord.
L'investissement public.
Oui, mais alors ça, le débat est ouvert. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le gouvernement prépare à la rigueur, mais c'est parce qu'il y a une vraie situation de détresse des finances publiques. Je rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, Roselyne, le François Fillon, Premier ministre, expliquait qu'il était à la tête d'un État
en faillite,
d'un gouvernement en état de quasi-faillite. Et aujourd'hui, la situation s'est encore plus dégradée. Alors, je crois qu'il y a un vrai, véritable problème. Et après, on va reparler encore des solutions et des pistes. Mais je crois que ça pose un vrai problème de crédibilité politique. Au-delà de la question de la note des agences de notation, vous avez tout à fait raison, qui intervient en avril et qui va être aussi décisive parce que le coût de la dette va être encore plus alourdi. On est à 3100 milliards de dettes aujourd'hui. La dette a explosé en 10 ans. C'est absolument ahurissant. Et le Covid est à bon dos. Hein. Je crois pas que les quelques centaines de millions d'euros explique à eux seuls l'état de la dette. Je crois qu'on a quand même fait beaucoup de cadeaux, beaucoup de chèques, et qu'Emmanuel Macron, sur le plan de la crédibilité politique, avait un point fort dans son bilan. C'était la réussite économique, la croissance, le chômage et la bonne gestion des finances publiques. Et là, je crois que ce qui est catastrophique pour lui, c'est qu'à 3 ans de l'échéance et après 7 ans de pouvoir, on s'aperçoit que le Mozart de la finance, et d'ailleurs c'est l'argument qui a été utilisé par beaucoup d'opposants politiques, c'est plutôt Salieri.
Et on transformait ça en tocard de la finance.
Voilà, certains ont dit tocard de la finance, moi c'est plus, je dirais, plutôt Salieri.
Voilà, Salieri, oui.
Qui a mal fini, il faut le rappeler.
Jaloux de Mozart.
Absolument.
Alors c'est la troisième offensive du gouvernement sur l'assurance chômage, avant la possible reprise en charge par l'État de l'organisme actuellement géré par les partenaires sociaux. Là encore, on va vers une réforme.
On va voir ce que va nous annoncer le Premier ministre ce soir. Il s'exprime, donc sans doute, effectivement, il a, semble-t-il... comme intuition que s'il devait rogner encore sur les allocations chômage et donc de réduire encore la durée d'indemnisation des chômeurs, ça ne provoquera pas de mobilisation. Il fait ce pari-là, Gabriel Attal. Il n'a pas tout à fait tort parce que les dernières réformes n'ont pas soulevé les foules et n'ont pas suscité une grande émotion, même si les Français y étaient plutôt défavorables. Ça n'a pas suscité des grandes mobilisations qui compromettaient justement les précédentes réformes. Mais il y a là quand même un vrai problème d'imagination et de créativité de la part de nos gouvernants quand même. Je suis désolé, mais c'est vrai que dès qu'on a un problème de déficit et de dette, on va dire on va taper dans les dépenses publiques, on va taper sur les plus pauvres parce que ce sont des feignants, il faut qu'ils se remettent au travail, etc. Vous citiez le cas du Portugal. Le Portugal a fait justement un investissement assez colossal justement sur la création d'activités et donc la création d'emplois. Et c'est par ce biais-là aujourd'hui qu'on peut plus facilement sortir les gens de l'emploi. C'est pas en demandant aux gens
du chômage,
en sortant les gens du chômage. Voilà, c'est pas en contraignant et en disant aux gens. Au bout d'un emploi refusé, vous allez sortir des chiffres du chômage. Alors si, ça fera baisser les chiffres du chômage, mais ça paupérisera toute une partie de la population.
Le maire appelle l'État-providence ?
C'est ce que lui, voudrait appeler l'État protecteur. C'est-à-dire qu'il voudrait sortir de ces fameux États-providence qui consisterait à faire en sorte que l'État sert justement à protéger justement les incidents, les accidents de parcours. Ouais. Ah ben là, aujourd'hui, plus on avance dans les réformes du chômage, moins on a un État protecteur, justement.
Ouais. Non, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, effectivement, escompte une mobilisation sociale assez limitée en ce qui concerne l'assurance chômage, contrairement à ce qui s'est passé avec les retraites. Il pense qu'il n'y aura pas d'énormes manifestations dans les rues, même si les syndicats sont bien sur vent debout. Après, c'est très compliqué l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut taper dans le montant des allocations, dans la durée d'indemnisation? En tout cas, Gabriel Attal, depuis le début, depuis son discours politique général, lui, il insiste sur la valeur travail. Hein, c'est celle que soulignait Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2007. Donc, c'est une politique assez libérale qui mise sur le travail. Et vous avez raison, plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens qui cotisent et plus de recettes fiscales et de contributions rentrent dans les caisses de l'État. Au-delà de ça, si vous me permettez cette petite incursion un peu plus politique, ce que je constate tout de même, c'est qu'il y a aujourd'hui un nouveau créneau pour ceux qui, dans la Macronie, se revendiquent, enfin veulent capter l'héritage, puisqu'il est question de finances publiques, du président Macron en vue de 2027. On constate que beaucoup de prétendants, je pense bien sûr à Édouard Philippe et à Bruno Le Maire, commencent à nous expliquer que les finances publiques, c'est l'alpha et l'oméga de la politique aujourd'hui, que la dette et le déficit sont leur objectif numéro un, et qu'eux vont changer les choses, et qu'eux vont s'attaquer véritablement au problème. Ce qui, au passage, pour un ancien Premier ministre, et surtout pour un ministre de l'économie qui est aux commandes depuis 7 ans, est assez cocasse. J'ai discuté avec une ministre récemment qui me disait, je la cite, hein, « Allô Bruno, ça fait que 7 ans que tu es à Bercy ». Donc, je trouve qu'il y a quand même un peu de culot de la part de ces personnalités à investir ce créneau. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que à la fois François Bayrou, qui depuis 20 ans a fait de l'argument de la réduction de la dette son objectif politique numéro un, qui est un prétendant, et aussi Édouard Philippe et aussi Bruno Le Maire, qui sont tous trois dans la course, utilisent cet argument-là. Je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui la priorité des Français, qui pensent bien sûr d'abord chômage, pouvoir d'achat et travail.
Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure, les Français vont-ils adhérer, et même les parlementaires, puisqu'il va y avoir un débat, au fait que cet État protecteur, en tout cas cet État-providence, fasse une cure d'amaigrissement, et est-ce que les Français sont prêts à avoir moins de protection parce que c'est le cas? Là, on parlait des collectivités locales, là, on va parler des indemnités journalières apparemment qui sont aussi dans le viseur, c'est-à-dire les arrêts maladie, les transports de la sécurité sociale qui seront plus gratuits, etc. Donc on va vraiment la taper dans le social. Donc en fait, la solution de droite, elle est en train d'être écrite par le gouvernement.
Le débat public va être intéressant et va être important justement pour le jugement des Français. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les Français ne vont plus comprendre pourquoi on fait toujours les poches des Français les plus pauvres et les plus précaires, alors qu'effectivement, on fait la démonstration. Et d'ailleurs, ça commence à crisper au sein de la majorité parce que tout le monde dit, y a peut-être d'autres solutions qui consisteraient peut-être à les taper dans les super profits, d'aller changer un peu, faire une réforme fiscale qui serait plus juste et qui serait plus juste et qui serait plus qui ramènerait plus de recettes dans les caisses de l'État. Peut-être travailler encore plus à la question de l'évasion fiscale.
Super profit.
Peut-être arrêter de faire des projets comme ceux du SNU qui coûtent 2 milliards d'euros. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui commencent à émerger au sein de la majorité. Donc le débat va être intéressant, mais le débat va être d'autant plus intéressant que si la majorité est fracturée, on sait très bien que, y compris si la droite elle est d'accord sur le diagnostic, elle ne donnera jamais une validation.
Vous avez remarqué qu'elle a attaqué extrêmement durement le gouvernement et demandé la démission de Bruno Le Maire.
Bien sûr, évidemment. Et donc le débat va être intéressant. Je ne sais pas s'il y aura de vote. A priori, il n'y aura pas de vote. Mais en tout cas, on sent la petite musique commençait du côté de la droite. Vous savez, cette fameuse musique qui consiste à dire on est prêt à dégainer une motion de défiance, une motion de censure vis-à-vis du gouvernement. Vous savez que si c'est la droite qui le dépose, il y a de grandes chances quand même pour que le gouvernement tombe, ou en tout cas qu'il soit mis en minorité. C'est quand même ça qu'il y a à la fin. C'est quand même une crise politique derrière cette crise économique que le gouvernement est en train de nous présenter. Derrière, il y a quand même une crise politique très proche.
Donc là, avec menace d'attentat, les JO qui, pour l'instant, c'est un peu les diplés des JO.
Oui, absolument. Il nous manque encore les sauterelles et le Nil qui se transforme en sang. Alors, il y a la Seine, cérémonie au bord de la Seine. J'espère qu'elle restera aussi propre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la catastrophe. Et puis, au-delà des questions qu'on a examinées, des pistes, des hypothèses et des scénarios, il y a aussi la question de la méthode. C'est-à-dire que le budget doit être révisé. Donc, ça veut dire qu'il va sans doute falloir faire un projet de loi de finances rectificatives, ce qu'on appelle un collectif budgétaire. Et là, on retombe dans les mêmes travers que ceux qu'on a connus depuis 2022, c'est-à-dire une majorité est relative. Et donc, j'ai discuté avec un responsable de la majorité hier qui me disait un collectif budgétaire, un projet de loi de finances rectificatif, c'est 5-49-3. 5 nouveaux 49-3 qui remettraient une pièce dans la machine de la contestation d'un gouvernement autoritaire, etc. Donc, oui, vous avez raison. On est un peu à ce qu'on appelle dans la Bible l'abomination de la désolation, c'est-à-dire le point de non-retour. Et d'ailleurs, j'en reviens à mon point précédent. On voit bien que les héritiers du macronisme sont déjà partis compte tenu de cette situation catastrophique et que la fin de règne s'approche. Et nul doute qu'un score catastrophique de la majorité aux élections du 9 juin prochain, élections européennes, signerait finalement la fin de règne du président Macron.
Et j'ai envie de dire, ils sont quand même gentils, les gens à droite, les Ciotti et compagnie, parce qu'il faut aussi ces 40 ans de dérive, plus de 40 ans de dérive, procrastination, etc., en matière de « allez, on laisse filer la dette », etc., c'est aussi les Chirac, les Sarkozy et tutti quanti.
Oui,
et
puis
chacun a sa responsabilité.
Quand vous entendez Eric Ciotti, il propose à peu près les mêmes choses que ce que la droite a toujours proposé depuis 30 ans. Il revient même sur la proposition de Fillon qui avait fait tant de débats de supprimer près de 500 000 emplois publics. Encore une fois, sans doute, vous avez raison, il y a eu des dérives. Mais regardez, je vous disais, les Français vont finir par ne pas comprendre. Quand vous voyez que les aides aux entreprises, c'est le premier poste budgétaire aujourd'hui de l'État français. C'est près d'un tiers du budget de l'État. Et tout ça n'est pas touché. Ça, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les efforts soient un peu plus partagés du côté de ceux qui créent les désordres, les déséquilibres aussi économiques dans notre pays.
Donc les riches.
Les riches, oui, ça paraît caricatural de le dire, mais aujourd'hui, quand même, on voit bien que, en plus, compte tenu de la crise, et notamment, ça a démarré dès la crise Covid, mais compte tenu de la crise, de l'inflation aujourd'hui, etc., on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se font des marges et qui font des bénéfices grâce à cette crise. Donc, à un moment donné, il paraît à peu près légitime, et c'est le dit dans la majorité, David l'a rappelé, la présidente de l'Assemblée nationale y est favorable, et ça paraît logique. Les Français ne peuvent pas accepter l'idée que seuls les plus pauvres d'entre nous vont mettre la main à la poche.
Faudrait augmenter uniquement les impôts des plus riches.
Oui, mais en tout cas, on l'a dit, c'est un tabou absolu, c'est un dogme intangible du macronisme, un des rares. Je voudrais rappeler la mémoire de François Hollande, ancien président, qui avait lui-même taxé Nicolas Sarkozy de président des riches et qui a trouvé cette formule pour Emmanuel Macron, le président des très riches. Je rappelle, alors vous me connaissez, j'ai suivi son quinquennat de très près, j'avais été très critique sur son bilan, mais je voudrais rappeler quand même, il faut le dire, pour être objectif, qu'à la fin de son quinquennat, le déficit des finances publiques était quasiment à 3%, et c'est à peu près le seul chef de l'État dans les 20 dernières années qui a réussi à rester dans les clous de Bruxelles. Mais en tout cas, le président des très riches, pour reprendre sa formule, à l'évidence, n'acceptera jamais, au grand jamais, ces solutions que vous évoquez, Pierre, c'est-à-dire de taper dans les grandes fortunes et le grand capital, tout simplement parce qu'il considère que ça favorise l'investissement, ça favorise les investissements étrangers en France et ça favorise la croissance. Je constate que quand vous discutez avec des grands patrons et des investisseurs, ils considèrent que la fête n'est pas aussi belle que ça et que bientôt les lampions vont s'éteindre.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, rappel, l'Hémicycle et Politis, vos une respective. Merci à demain.